êtes infirmière à Saint-Antoine, à Paris,
Tout à fait.
dans le 11e arrondissement.
12e.
12e arrondissement. Hier, vous avez invité vos collègues à 14h à vous rejoindre en bas de l'horloge. Alors, vos revendications, elles étaient multiples. Vous voulez travailler en sécurité, vous voulez plus d'effectifs, vous avez besoin très clairement de matériel, notamment des masques, des surblouses, ça, on en a parlé. Toujours pas de FFP2 en ce moment, enfin, ou alors des FFP2 sous-clés et au compte-gouttes. Est-ce que vous pouvez nous dresser tout d'abord, Aurélie, un état des lieux de ce qui se passe en ce moment au niveau des infirmiers, en tout cas dans votre hôpital. Comment est-ce que vous vous sentez sans pour autant faire de la polémique, mais quelle est, à l'heure d'aujourd'hui, à la fin mars, votre état d'esprit quand vous allez travailler?
Eh bien, on peut dire que c'est sacrément la galère, hein, parce que ça l'était déjà avant. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est en fin de compte le reflet de ce qu'on dénonce depuis des mois et des années. Ça veut dire qu'il y a un manque de personnel dans tous les services. Et puis en plus, là, bah, comme c'est la crise, c'est l'épidémie, eh ben, on se rend encore plus compte qu'il manque du matériel. Et c'est pour ça qu'il y a des collègues qui sont venus hier pour exprimer leur colère par rapport à ce qui se passe. Parce que là, c'est de se rendre compte qu'on a quand même été obligé de fermer toute une partie des services pour pouvoir gérer cette épidémie. Enfin, c'est de se dire que c'était le bouleversement. Là, il y a 100 000 lits qui ont été fermés pendant 20 ans, depuis 20 ans. Donc bah, aujourd'hui, on la paye, cette politique. Et c'est criminel ce qui se passe. Parce que là, bien sûr... Il y a les patients qu'il va falloir prendre en charge et bien sûr qui sont atteints du Covid-19, mais il y a tous les autres. Il y a ceux qu'il faut soigner en permanence. Moi, je suis dans un service d'hématologie, c'est les patients qui ont des leucémies, des lymphomes, des maladies graves. On peut pas se dire, on va attendre 2 ans, 2 mois, je veux dire. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut continuer à prendre en charge ces patients-là. Et c'est là, on voit que, bah oui, l'hôpital, il est en train de craquer, mais il craque depuis des mois et des années, il craque. Mais là, on s'en rend plus compte.
Mais alors, on en entend parler tous les jours. Hein. On voit des soignants se mobiliser. On a eu un médecin ici qui a complètement craqué également. On voit des infirmiers qui commencent à parler. On vous donne finalement la parole en fait dans les médias. Mais au-delà de ça, est-ce que concrètement, parce que c'est magnifique de vous applaudir à 20h tous les jours, mais concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une évolution depuis le début de cette épidémie ou toujours pas? Parce que nous, on entend qu'il y a des masques, il y a 20 milliards de masques qui vont être envoyés. On entend qu'il y a du gel hydroalcoolique, on entend qu'il y a du matériel pour les soignants. La réalité est tout autre en vrai?
La réalité, c'est que, vous voyez, dans certains services, alors je ne parle pas des services Covid-19, où là, il y a un peu plus qu'ailleurs. Voilà. Mais il y a quand même une restriction. Par exemple, il y a certains services, et ben quand vous prenez votre poste, vous avez une petite enveloppe qui vous attend avec 2 masques dedans, en vous disant, pour faire ta journée, tu as 2 masques. Voilà, mais 2 masques, c'est complètement insuffisant. Des masques chirurgicaux. Et puis, c'est aussi les masques FFP2. Les masques FFP2, ils sont dans les coffres à stup, ils sont dans le bureau de l'encadrement, ils sont sous clé. Et donc, chaque fois que tu as besoin d'un masque, il faut que tu ailles le chercher. Mais résultat, tu te dis, ouais, je prends un masque, mais si ça se trouve, je le prends pour ma collègue qui passera après, etc. C'est la restriction. Et on veut nous faire croire qu'en plus, on est protégé avec 2 masques. Il y a une semaine et demie, nous, on nous a dit sur Saint-Antoine, la psychiatrie, ils n'ont pas besoin de masque. Parce qu'en psychiatrie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Covid-19. Parce que ça ne doit pas passer la barrière. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des soignants de psychiatrie qui ont le Covid-19. Elle est là.
C'est la barrière.
Bah oui, bien sûr, parce que les patients, ils sortent, ils vont fumer leurs cigarettes, etc. Et puis, si on se protège pas. Aujourd'hui, les soignants, ils sont pas protégés. Ça manque. L'autre jour, en réachir, ils ont manqué de surblouse. En réachir, ils recevaient des patients Covid-19. Ils en avaient pas assez. Ils ont été obligés d'aller en quémander à l'encadrement. Enfin, 10 blouses par 10 blouses. Enfin, c'est pas pensable, des situations comme ça. Voilà, c'est ça la réalité.
Oui, bien sûr, et on entend cette réalité. Est-ce que la problématique, c'est qu'en réalité, on vous donne pas ces surblouses, on vous donne pas ces masques, on vous donne pas ces gels hydroalcooliques parce qu'il y en a pas, surtout.
Oui, mais parce que ça n'a pas été prévu. Là, on nous dit, à la sortie de la grippe H1N1, il y avait dans les stocks d'État, je parle pas de ce qu'il y avait dans les stocks des hôpitaux, mais il y avait 1,4 milliard de masques. Bon, bah, aujourd'hui, en février 2020, dans ces mêmes stocks, il y avait 117 millions. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est moins facile de voir les jours qui viennent. Entre 1,4 et 117 millions, le calcul, il est vite fait. Mais C'est parce qu'il n'y a pas de prévention. On ne prévoit pas du matériel au cas où. Même en réa, ils ont eu des problèmes pour avoir des respirateurs qu'il faudrait qu'ils aient pour pouvoir ne pas être pour pouvoir désadapter les patients qui sont sous respirateur. Mmh. Voilà. Mais ça manque de tout. Alors bien sûr, bah une situation comme ça, on n'est pas capable de faire face parce que ça manque en permanence. Et là, c'est des surblouses et des masques, c'est le vital du vital. Et en plus, je vais vous dire, sur Saint-Antoine, on a eu quand même beaucoup de chance, hein, parce que le magasin hôtelier, c'est ça qui gère les stocks, des masques, des surblouses, etc. Ben, on a de la chance parce que l'épidémie, elle serait arrivée un an plus tard, et ben on n'aurait plus de magasin hôtelier. On aurait dépendu de la Pitié Salpêtrière, qui est à plusieurs kilomètres, il aurait fallu avoir des navettes de matériel. Alors heureusement pour nous, le magasin il est encore là et qu'on peut aller, les services se ravitailler dans la minute. Voilà. Mais c'est ça aujourd'hui, c'est une politique d'économie. Alors c'est année après année une politique où 8,4 milliards en moins sur 10 ans. Bah oui. Alors on s'en rend compte et ça craque ouvertement au public quand il y a une épidémie comme aujourd'hui, quoi.
Vous voulez dire que en fait ça craque parce que vous êtes fatigué, vous êtes à bout les soignants parce que vous vous donnez corps et âme malgré le manque de matériel et de moyens. Vous allez quand même travailler, hein. Hier vous étiez à votre poste.
Ça c'est sûr, mais ça fait des années que les collègues ils se bagarrent et que ça tient parce que les gens ils ont envie que leur boulot il soit fait correctement et c'est normal. Enfin. Même ceux qui sont dans les usines, ils ont envie que les voitures elles soient faites correctement. Alors quand on s'occupe de patients, c'est encore on donne tout ce qu'on a. Moi j'ai vu des collègues, aller chez McDo chercher des repas pour des patients parce que le petit gamin il en a besoin. Ben oui c'est ça la vérité. Les gens ils se donnent. Maintenant la semaine dernière, cette semaine dans un service, on a dit aux collègues, on vient de les réunir et puis de leur dire c'est l'épidémie Covid-19, va falloir faire des efforts. Mais les gens, ils en font depuis des années, des efforts.
Qu'est-ce qu'ils vous ont voulu dire par des efforts? Quels efforts supplémentaires?
Il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler plus longtemps, il va falloir accepter au lieu d'avoir un jour de repos par semaine, de pas l'avoir. Vous ferez 7 jours d'affilée, hein, et puis vous ferez des heures supplémentaires. Dans des services de réa, on leur a demandé, travailler 12 heures maintenant exceptionnellement, là, pendant le temps du Covid-19. Bon, voilà, c'est toutes ces situations-là et, là, c'est aussi de se dire, il y en a ras-le-bol parce que on nous demande de faire des efforts toute l'année. Là, et puis là, ça continue. Et puis c'est normal. Le brancardage, on leur a dit, d'ici juin, plus de congés, plus de vacances, plus de RTT. Voilà. Et puis il va falloir venir bosser les week-ends. Et puis on vous change vos horaires. Mais surtout, dites rien parce que c'est le plan blanc. Alors il faut tout accepter au nom du plan blanc. Mais de se dire qu'aujourd'hui, pour prendre en charge une épidémie, on est obligé de tout arrêter à l'hôpital, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux ce qui est en train de se passer. Cette politique, elle est criminelle.
Aurélie, on entend ce discours dans la majorité de la bouche des infirmiers, en tout cas, qui osent parler beaucoup de l'anxiété délit. Est-ce que vous pensez sincèrement que pour que votre cause soit entendue, c'était le bon moment de tirer la sonnette d'alarme? Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de la tirer juste après cette épidémie? Ou est-ce que vous pensez au contraire que c'est le moment de la tirer pour que on essaie, en tout cas, de vous donner les moyens de vous protéger?
Moi, ce que je pense, c'est que il y a aucun moment où il faut s'arrêter de dire les choses. Voilà. On l'a dit bien avant et on va continuer à le dire maintenant et on va surtout aussi continuer de le dire après. Mais en plus, justement, là, il y a plein de gens qui prennent conscience que la santé, elle va super mal. Et il faut en profiter. Il n'y a pas de raison de se taire. Il n'y a pas de raison d'accepter que les gouvernements, ils se permettent de nous dire « Mais si, vous avez ce qu'il vous faut. » Là, c'est ce qu'on essaie de nous expliquer dans nos directions. « Mais si, vous avez des masques. » Mais non, on nous ment. On nous ment en permanence. Donc là, il n'y a pas de raison qu'on se taise. Et moi, je suis bien contente que hier, sur l'hôpital Saint-Antoine, il y a des dizaines de collègues qui sont descendus dans la cour pour crier leur colère et pour dire que c'est pas possible comment on nous traite. Voilà, et surtout comment on traite les patients qui sont dans les lits. Parce que c'est tout le monde qui le subit, cette politique. C'est ceux qui soignent et ceux qui sont soignés.
Mais Aurélie, justement, est-ce que vous ne pensez pas que ça véhicule, en tout cas dans l'état général et dans l'esprit collectif, que l'hôpital français n'est pas prêt, n'est pas préparé, que nos soignants sont à bout et que par conséquent, est-ce que ça n'augmente pas la peur dans cet esprit collectif? Désolée, je vous pose cette question, mais c'est intéressant d'en parler avec vous.
C'est que de toute façon, les gens, enfin vous savez, avant que le Covid-19 il apparaisse, qu'il soit là, quand on faisait des petits rassemblements, quand on se regroupait pour partir en manifestation, ces derniers temps, les patients, ils nous applaudissaient. Ils nous disaient, on est avec vous. Parce que les gens qui vont à l'hôpital, ils savent comment ça se passe. Ils voient bien la dégradation depuis des années.
Bien sûr.
Voilà, ils le voient. Mmh. Donc, là, il y a plein de... C'est en permanence que moi, je reçois des messages. Tenez bon, on est là, mais c'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Mais moi, j'espère que l'ensemble de la population, elle est en colère contre ce qui se passe. Et puis, en plus, enfin, je veux dire, en plus... là, quand on voit le nombre d'entreprises privées qui continuent à fonctionner, alors qu'on nous dit qu'il faut se confiner, qu'il faut se protéger, mais que c'est pas grave, il y aura des centaines de gars qui tous les matins ils partent à l'usine et ils s'enferment dans des ateliers. Voilà. Alors on nous parle de confinement, on dit aux gens vous respectez pas, etc. Au final, ce que je vois, c'est que les grosses entreprises du CAC 40, elles les respectent pas. Elles respectent pas ces confinements. Et justement, elle fait que demain, en ayant leur attitude pour se faire du fric, au final, c'est des patients en plus dans nos lits. C'est ça ce qui se passe.
Ce que vous êtes en train de dire très concrètement, parce qu'on a eu encore le cas dernièrement, il y a de plus en plus de petites usines qui étaient fermées avec du personnel confiné qui commence à réouvrir. Il y a notamment eu des mots qui ont été passés à certains ouvriers, il va falloir commencer à retravailler la semaine prochaine, etc. Est-ce que vous pensez que ce sont de nouveaux clusters qui vont naître et par conséquent qui vont venir saturer encore plus les services d'urgence et de réanimation?
C'est un risque, hein, bien sûr. Le confinement, c'est aujourd'hui la seule barrière qui existe pour pouvoir se protéger. Faut que ça soit pour tout le monde. Enfin, moi j'étais à l'hôpital, où on nous dit il faut se confiner, hein, que il faut prendre ses barrières, ses mesures barrières, etc. Et puis qu'est-ce que je vois hier, les ouvriers du bâtiment d'une entreprise privée qui est payée par l'hôpital, hein, qui sont en train de refaire le muret dans le hall, comme si c'était une urgence. Comme ce muret qui est là depuis 10 ans que je suis à Saint-Antoine, il avait besoin d'être changé maintenant. C'est ça, c'est que, en fin de compte, en plus, on fait prendre des risques. En plein milieu de l'hôpital, on fait venir des ouvriers qui, eux, ils font ce que le patron leur demande. Et puis, en plein milieu de l'hôpital, où ils vont croiser à coup sûr des gens qui seront Covid-19 encore plus qu'ailleurs.
Oui, bien sûr, il y a plus de risques, forcément.
Et puis, voilà. Et puis, en plus, moi, ce qui me révolte là, c'est quand je vois Martin Hirsch, alors qui tous les matins nous envoie un petit mail, hein, pour nous dire ouais, je suis de vos côtés, etc. J'ai fait que vous aurez votre prime des travaux de catégorie dangereux, 56 € par mois si vous avez travaillé 20 jours. C'est super, franchement, hein. On est trop contents. Et qu'en plus, pas une fois il a dit là, parce qu'il est en train de pleurer en disant qu'il demande des effectifs, qu'il faut que les gens viennent à l'hôpital pour travailler. Pas une fois il a dit là tout de suite. Tous les collègues qui sont en contrat déterminé, on les embauche, on les titularise tout de suite. Pas une fois, il l'a dit.
Mais est-ce que vous pensez que ça va bien collègues... justement, Aurélie? Est-ce que vous pensez que ça va bien? Parce qu'il faut que ça vienne. Manque de personnel.
Ça viendra si on se bagarre. Ça, il a toujours fallu se bagarrer. Donc là, ça viendra. Là, il n'a pas fait l'annonce. Et puis en plus, là, le 18 mars, il y a des collègues aides-soignantes qui ont été reçus brillamment au concours pour passer, pour aller à l'école d'infirmière, hein, parce qu'on manque d'infirmières. Mm-hmm. Mais au final, ces collègues-là, elles sont pas financées. Parce que 2 mois avant, on leur envoyait une lettre bien avant le concours pour leur dire, mais de toute façon, même si t'as ton concours, t'auras pas le financement par la science publique. Donc, tu t'assois sur la formation qui coûte 20 000 €, donc personne n'est capable de le faire. Puis 3 ans c'est en salaire, donc personne n'est capable de le faire. Mais là, il aurait très bien pu le dire, Martin Hirsch. Aujourd'hui, toutes les aides-soignantes, qu'on concourt infirmier, on va les financer parce qu'il manque d'infirmières. Ça aurait été un geste. Même ce geste-là, il n'est pas fait. Alors, je veux dire, aujourd'hui, moi, je pense que je m'adresse à tous les soignants qui travaillent à l'hôpital et de leur dire que de toute façon, si on veut que notre sort y change et si on veut avoir du matériel et des effectifs pour s'occuper correctement de tous les malades, enfin, je parle des soignants, mais les administratifs, les ouvriers, etc., il va falloir qu'on se bagarre. Mais ça sera pas parce qu'il y a eu le Covid-19 qu'il va avoir une prise de conscience de la part des gouvernements. Hein. C'est la même politique depuis 20 ans, même plus. Donc, il n'y a pas de raison qu'eux, ils changent. Hein. Leur politique, c'est donner des milliards aux grosses entreprises et aux banques. C'est tout. C'est sûrement pas pour la santé.
Ça n'engage que vous. On espère que les choses vont évoluer. Vous le savez, en tout cas, c'est un live. Et donc, il y a des questions pour vous en live. Donc, on est déjà sur la fin. Merci Aurélie de votre témoignage. Je vais essayer de prendre les questions au fur et à mesure. On dit, une politique d'économie au détriment de la santé des Français. Alors, est-ce que vous pensez que les conflits sociaux vont se multiplier, Aurélie, après la crise?
Ben, je l'espère. J'espère qu'il y a plein de travailleurs qui vont se mettre en bagarre et qui vont pas accepter toutes les annonces qu'on va nous faire. Enfin, déjà, il y a des annonces, hein, les 60 heures par semaine, le fait que dans le confinement, ben, on peut nous piquer une semaine de congé. Bon, ben, ce qu'on voit, c'est que les attaques, elles continuent. Donc, la lutte des classes, elle continue en permanence, hein, et Covid ou pas Covid, hein.
Est-ce que vous pensez, Aurélie, que dans un moment où le président Macron appelle à cette solidarité, à cette citoyenneté, ça n'est peut-être pas le moment d'être en guerre contre le gouvernement, mais de lutter tous ensemble contre cette épidémie?
Alors,
Aurélie, est-ce que vous m'entendez?
Le gouvernement, il est toujours en guerre contre nous. Donc, même là, il continue cette guerre. Donc il n'y a pas de raison que nous, justement, on fasse l'union nationale. Enfin, moi, je suis pas du tout d'accord, parce que si vraiment il était du côté de ceux qui se bagarrent aujourd'hui, eh ben, justement, les annonces que je vous disais tout à l'heure sur les collègues qui sont en contrat déterminé ou les soignantes, eh ben, tout de suite, elles auraient obtenu ce qu'elles voulaient. Ça, c'est des signes. Bon, ils les font pas. Bon, bah, cette guerre, ils nous la menaient déjà avant. Je vois pas pourquoi ils arrêteraient. Là, au contraire. Là, les milliards qu'ils vont donner aux entreprises et aux banques, eh ben, il va falloir qu'ils les récupèrent. Donc, ils vont les récupérer, ils vont nous faire les poches pour ça. Donc, je pense que justement, partout où on soit, eh ben, il faut qu'on se bagarre pour défendre nos intérêts, pour défendre nos salaires, nos emplois, et à l'hôpital pour défendre comment on s'occupe des patients. Voilà.
La réalité qu'on se prend, Aurélie, avec ce virus aujourd'hui, elle est un peu dramatique de savoir nos soignants sans arrêt dans la bagarre avec ce gouvernement. Comment est-ce que les choses pourraient s'apaiser afin que chacun puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles?
Bah, qu'ils donnent des milliards pour la santé. Voilà. Qu'ils augmentent le nombre de lits. Qu'ils augmentent les salaires. Qu'ils augmentent le nombre d'effectifs, ouvriers, administratifs. Il y a des administratifs, les salaires, c'est 1 300 € aujourd'hui. Comment vous faites pour vivre? Les agents hospitaliers, ceux qui font le ménage, c'est pareil. Là, aujourd'hui, même au ménage, on emploie des entreprises privées qui sont payées encore moins que les autres. Voilà, qui ont encore plus de surface à faire. Bon, bah, voilà, c'est un choix politique. Et leur choix, c'est, voilà, d'être du côté des grosses entreprises. Là, il n'y a pas de problème pour augmenter les profits des actionnaires, mais sûrement pas pour être du côté des travailleurs et de la population. Ça, non. Aujourd'hui, on la voit, la dégradation. Et là, ce qui se passe, le Covid-19, eh ben ça monte une crise, mais ça monte ce qui se passe réellement. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de raison que ça changera que si nous, on décide de faire que ça change. Voilà.
Une dernière question, Aurélie, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce live. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, vous puissiez être entendu et travailler dans des bonnes conditions?
Bah, tout de suite, qu'il y ait des effectifs partout, que tout de suite, il y a du matériel. Et puis même, je veux dire, par exemple, il y a des collègues qui arrivent même plus à venir bosser là actuellement avec les problèmes de transport. Bon, ben on leur a dit, il y aura des taxis et c'est tellement compliqué. Il faut aller voir sa cadre, il faut avoir l'autorisation pour pas pouvoir avancer parce qu'avant il fallait avancer le taxi en plus pour venir travailler. Voilà, c'est il y a des informations. Alors c'est mis sur des sites et puis au final, ben, c'est compliqué pour savoir comment se faire rembourser son essence. Comment on fait pour avoir un taxi, comment on fait pour avoir une chambre d'hôtel à côté de l'hôpital, etc. C'est que tout ça, ça devrait être facilité.
Donc vous voulez que le gouvernement vous entende et qu'il y ait une espèce de simplification de tout ce processus pour vous permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles?
Ah bah ça serait déjà une première étape, c'est sûr. Mais ça, on sait comment il fonctionne maintenant. Maintenant, ce qu'on voit, bah, c'est que ça, voilà, ils vont essayer de gérer la crise au minima. Hein, et puis là, on va lâcher un peu plus parce que c'est une nécessité, puis qu'ils ont tellement peur que la population, bah, elle prenne conscience de ce qui se passe réellement. Donc ils vont lâcher un peu de fric là. Et puis au final, bah, après, tout va continuer. Hein, on va recontinuer à supprimer des emplois, on va continuer à supprimer des lits. Voilà. Vous savez, les collègues, ils ont pas d'illusions, hein. Ils savent très bien que s'il faut que ça change, il faudra qu'ils comptent sur eux-mêmes. C'est tout. Mais là, ils voient qu'aujourd'hui, déjà, on nous ment. On est rien qu'au niveau des masques et des blouses. Bon, ben voilà, hein.
En tout cas, Aurélie, merci beaucoup de nous avoir donné votre point de vue, qui est le vôtre. C'est votre vérité, c'est ce que vous vivez tous les jours. Et je pense que c'est important d'entendre ce que chacun a à dire sur ce live. Merci d'avoir eu le courage de vos opinions aujourd'hui, Aurélie. Et j'espère que vous nous tiendrez au courant de l'évolution de cette situation dans l'hôpital dans lequel vous travaillez.
Pas de problème, comptez sur moi.